En 5 à 7 de la grande crise. Le programme escalier. Mikhaïl Vadimov était mort. Sa voiture avait heurté de plein fouet les rambardes de l'Alexander Hamilton Bridge et avait été projetée dans la Harlem River. Une journée entière fut nécessaire au secours pour repêcher la voiture. L'autopsie révéla que Vadimov était atteint d'une leucémie et que la perte de contrôle de son véhicule avait été provoquée par une hémorragie rétinienne. Cheng Xin était profondément marqué par cette tragédie. Vadimov avait veillé sur elle comme un membre de sa famille. Il l'avait aidée à s'habituer à son travail et à sa vie à l'étranger. Par-dessus tout, Cheng Xin lui était reconnaissante pour sa générosité. Du fait de son intelligence et de son dynamisme, elle attirait inévitablement la lumière et, même si ce n'était que par son sens de la responsabilité, elle faisait régulièrement de l'ombre à celui dont elle n'était que l'assistante. Néanmoins, Vadimov ne lui en tenait aucunement rigueur et l'encourageait au contraire à montrer son talent sur des scènes de plus en plus grandes. Il y eut au sein de l'agence deux réactions très différentes au décès de Vadimov. La plupart des employés et des techniciens étaient chagrinés, comme Cheng Xin, de la perte de leur supérieur. De l'autre côté, les agents de renseignement paraissaient surtout regretter que le corps de Vadimov soit resté si longtemps immergé avant d'être retrouvé. Son cerveau était désormais inutilisable. L'affliction de Cheng Xin se doubla peu à peu d'un soupçon. Pouvait-ce vraiment être une coïncidence ? Elle fut parcourue de frissons la première fois que cette idée émergea dans son esprit. Si un complot se tramait réellement derrière la mort de Vadimov, elle aurait du mal à endurer tant d'abjections et d'horreurs. Elle interrogea un médecin du centre de planification technologique qui lui apprit qu'il était possible d'inoculer une leucémie. Il fallait pour cela placer la victime dans un environnement radioactif, tout en veillant à respecter minutieusement le dosage de radiation et le temps d'exposition de l'individu. Trop peu de radiation ne suffisait pas à inoculer la maladie, et une exposition trop lourde ou trop longue risquait de tuer la victime sans passer par le stade de la leucémie. D'un point de vue chronologique, le début de la maladie de Vadimov pouvait avoir coïncidé avec la promulgation de la loi sur l'euthanasie. Si meurtre il y avait eu, le tueur était un sacré génie. Cheng Xin passa le bureau et l'appartement de Vadimov au compteur Geiger, mais ne découvrit aucune anomalie. La très faible radioactivité mesurée pouvait s'expliquer rationnellement. Elle trouva les photos de famille que Vadimov gardait sous son oreiller. Son épouse était une danseuse de ballet de 11 ans, sa cadette, d'une grande beauté, et sa petite fille était absolument adorable. Vadimov lui avait raconté qu'il ne plaçait jamais les photos de sa famille sur son bureau ou sa table de nuit, peut-être par paranoïa professionnelle. Les exposer, c'était les mettre en danger. Il voulait les garder cachés tout en pouvant les regarder quand il en avait envie. À ce souvenir, Cheng Xin eut un pincement au cœur. Chaque fois qu'elle repensait à Vadimov, Cheng Xin songeait à Yun Tianming. Il avait été conduit en compagnie de 6 autres candidats dans une base secrète sous haute surveillance située non loin du quartier général de l'ARP où il subissait une série de tests qui détermineraient le choix du candidat retenu. Depuis sa visite à Yun Tianming, un nuage sombre flottait au-dessus de Cheng Xin. Ce nuage n'avait été au début qu'une fine volute de vapeur, mais il se fit peu à peu plus dense et il l'empêchait désormais de voir le ciel. Cheng Xin se souvint de sa première rencontre avec Yun Tianming. C'était à la rentrée de leur première année à l'université. Les étudiants du département se présentaient à tour de rôle. Elle avait remarqué Yun Tianming qui restait silencieux dans un coin de la pièce. Dès le premier regard, elle avait perçu combien il était seul et vulnérable. Elle avait déjà rencontré des garçons solitaires dans le passé, mais jamais elle n'avait éprouvé un tel sentiment. Elle avait envie de se faufiler dans son cœur pour en sonder les profondeurs. Cheng Xin avait toujours préféré les garçons de type solaire, dont l'assurance resplendissante réchauffait le cœur des filles et dont Yun Tianming était la parfaite antithèse. Cheng Xin ressentait néanmoins le désir de prendre soin de lui. Elle était toujours prudente en échangeant avec lui, craignant de le blesser par maladresse. Elle n'avait jamais été aussi prévenante avec un autre garçon. Lorsque Woo-Eun avait prononcé son nom ce jour-là, elle avait découvert que même s'ils avaient été repoussés dans un coin reculé de sa mémoire, ses souvenirs de Yun Tianming n'en demeuraient pas moins nets. Cette nuit-là, Cheng Xin fit un cauchemar. Elle rêva encore de son étoile, mais les forêts d'algues qui flottaient sur l'océan avaient viré au noir. L'astre tout entier se mit à rétrécir jusqu'à devenir un trou noir, comme un lambeau obscur arraché sur la toile de l'espace. Et autour du trou noir se mouvait un minuscule objet luminescent, bientôt capturé par la gravité du trou noir et dont il ne pourrait jamais plus se libérer. Un cerveau congelé. Se réveillant en sursaut, Cheng Xin distingua la lueur des lumières de New York derrière ses rideaux. Elle comprit brusquement ce qu'elle avait fait. En un sens, elle n'avait fait que transmettre une proposition de l'ARP que Yun Tianming avait eu la liberté de décliner. Si elle avait recommandé son nom, c'était pour un motif noble, protéger la civilisation terrienne. De plus, sa vie approchait de son terme et si elle était arrivée à son chevet quelques minutes plus tard, il n'aurait déjà plus été de ce monde. D'une certaine manière, elle l'avait même sauvé. Elle n'avait rien fait de si terrible, rien qui puisse à ce point peser sur sa conscience. Mais pour la première fois, elle comprenait que c'était ainsi qu'on vendait sa mère à un bordel. Cheng Xin pensa à l'hibernation. De nombreux patients étaient maintenant entrés en hibernation longue, pour la plupart des malades en phase terminale, espérant pouvoir être soignés dans le futur. Yun Tianming aurait eu une chance de survivre. Avec sa position sociale, il lui était difficilement envisageable de se faire hiberner, mais grâce à elle, il aurait pu. Toutefois, elle l'avait privé de cette opportunité. Le lendemain, dès son arrivée au travail, Cheng Xin alla trouver Wade. Elle avait d'abord songé solliciter le vice-directeur Yu Weimin, mais à la réflexion, il serait sans doute plus efficace de rencontrer directement le directeur. Après tout, c'était à lui que revenait la décision finale. Comme chaque fois qu'elle entrait dans le bureau de Wade, Cheng Xin le découvrit en train de fixer des yeux l'extrémité rougeoyante de son cigare. Elle ne le voyait jamais s'occuper de tâches administratives qu'elle imaginait incomber à un dirigeant, comme passer des coups de téléphone, lire des dossiers, négocier avec des partenaires ou participer à des réunions. Elle ignorait quand et même si Wade prenait le temps d'effectuer ses démarches. Tout ce qu'elle voyait en lui, c'était un homme absorbé encore et toujours par des pensées intarissables. Cheng Xin annonça à Wade qu'elle estimait que le candidat numéro 5 n'avait pas le bon profil. Elle retirait sa recommandation et invitait le comité de sélection à l'éliminer de la liste des candidats. « Pourquoi donc? C'est lui qui a les meilleures notes. » La réponse de Wade surprit profondément Cheng Xin et lui glaça le cœur. Parmi la batterie de tests qu'on faisait subir aux candidats, on les soumettait notamment à une anesthésie particulière qui supprimait toute sensation au niveau des membres et des organes sensoriels, mais gardait la conscience éveillée. Le test veillait à stimuler le cerveau de façon autonome. Le contenu des tests était principalement d'ordre psychologique. On évaluait la capacité d'adaptation de l'individu dans un environnement halogène, même si les concepteurs des tests n'avaient pas la moindre idée de la nature de l'environnement au sein de la flotte trisolarienne et que l'ensemble des simulations était fondé sur de simples suppositions. Les épreuves n'en restaient pas moins rudes. « Il n'a pas le niveau d'études requis, » dit-elle. « Toi, tu es suffisamment diplômé, mais celui qui aurait l'idée d'envoyer ton cerveau pour cette mission... serait le dernier des idiots. C'est un solitaire. Je peux vous assurer que, de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi marginal. Il est tout simplement incapable de se fondre dans son environnement. C'est précisément la meilleure qualité du numéro 5. Quand tu parles d'environnement, tu parles de la société des hommes. Un individu qui se fond parfaitement dans la société est en même temps dépendant d'elle. Quand il aura coupé les ponts avec son environnement et qu'il se trouvera dans un univers étranger à tout ce qu'il connaît, il risque de subir un choc irréversible. Tu en es le meilleur exemple. » Cheng Xin devait bien admettre que Wade avait probablement raison. Avant même d'être envoyé dans l'espace, les tests menés ici auraient eu raison de son intégrité mentale. Elle n'ignorait pas qu'il lui serait quasiment impossible d'influencer à son niveau le comité de sélection du programme Escalier. Mais elle refusait d'abandonner aussi facilement. Elle brûlerait sa dernière cartouche, même si cela signifiait mentir sur l'homme qu'elle tentait de sauver. Il y a plus grave. Il vit depuis si longtemps à l'écart des foules qu'il n'a aucun sens de la responsabilité envers l'humanité. Il est incapable d'amour. Après avoir prononcé cette phrase, Chung Sin se demanda si telle était bien la vérité. « Oh, je crois bien qu'il y a une chose sur Terre à laquelle il est attaché. » Le regard de Wade restait concentré sur le cigare, mais Chung Sin sentait que son attention s'était déplacée sur son corps, entraînant avec elle la chaleur de la petite flamme. À son soulagement, Wade changea rapidement de sujet. « L'autre qualité du numéro 5, c'est sa créativité, qui compense largement l'insuffisance de son niveau d'étude. Tu sais que c'est une de ses idées qui a rendu un de tes camarades millionnaire ?» Chung Sin avait en effet lu cette information dans le dossier du candidat. Elle connaissait finalement bien un camarade richissime, mais elle ne croyait pas une seconde que Woo-won avait pu lui offrir l'étoile. Ce n'était pas son genre. S'il avait vraiment voulu lui prouver son amour, il lui aurait acheté une voiture ou un collier de perles, pas une étoile. Pour être franc, si nous devons suivre les standards que nous avons fixés, tous les candidats sont loin du compte et notre choix est restreint. Mais je dois te remercier parce que tu viens de renforcer ma confiance dans le numéro 5. Wade souleva enfin son cigare et regarda Chung Sin avec un sourire froid. Une fois encore, il semblait se délecter de sa souffrance et de son désespoir. Mais le désespoir de Chung Sin n'était pas total. Elle assista à la cérémonie du serment d'allégeance des candidats du programme Escalier. Conformément au traité de l'espace tel qu'il avait été amendé après la crise, tout être humain utilisant des ressources terrestres pour s'envoler hors du système solaire, que ce soit dans le cadre d'un développement économique, d'une migration, d'une recherche scientifique ou pour tout autre type d'activité, devait par anticipation prêter allégeance à l'humanité. Tout le monde croyait que cette clause ne serait invoquée que bien plus tard dans le futur. La cérémonie du serment se déroulait dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies. Cependant, à la différence de la proclamation du programme collimateur qui avait eu lieu quelques mois plus tôt, celle-ci ne fit l'objet d'aucune annonce publique, et les participants étaient peu nombreux. En dehors des 7 candidats au programme Escalier étaient présents Sei, la secrétaire générale des Nations unies, qui tenait le rôle de maîtresse de cérémonie, et le président tournant du CDP. Dans l'assistance, seuls les 2 premiers rangs étaient complets, occupés principalement par des membres de l'ARP liés au programme, parmi lesquels Chung Sin. La cérémonie était simple et concise. Devant la secrétaire générale, les candidats posaient une main sur le drapeau des Nations unies, puis ils récitaient un discours défini à l'avance, dans lequel ils promettaient en substance qu'une fois partis dans l'univers, ils resteraient pour toujours fidèles à leur espèce et ne feraient jamais rien qui pût nuire aux intérêts humains. Suivant l'ordre établi pour le serment, 4 candidats précédaient Yun Tianming, dont 2 venaient des États-Unis, 1 de Russie et 1 du Royaume-Uni. Derrière lui se trouvaient une femme américaine et un compatriote chinois. Tous les candidats présentaient les signes manifestes d'une maladie avancée. 2 d'entre eux se déplaçaient même en fauteuil roulant, mais ils paraissaient encore vifs d'esprit. Leur vie était une lampe presque à court d'huile qui brûlait de ses dernières lueurs. En voyant Yun Tianming, Chung Sin eut l'impression qu'il allait encore plus mal que la dernière fois, mais il paraissait néanmoins impassible. Il ne se retourna pas pour la regarder. La cérémonie se passait sans incident. L'un des Américains, un physicien d'une 50aine d'années atteint d'un cancer du pancréas, insista même pour se lever de son fauteuil roulant et marcher jusqu'à l'estrade pour prononcer son serment d'allégeance. Les voix faibles mais ferventes des candidats se répondaient en vagues échos dans la salle vide. La seule interruption intervint lorsque l'Anglais demanda s'il pouvait prêter serment sur la Bible. Sa requête ayant été acceptée, il posa la main sur le livre sacré et acheva son serment en le maintenant sous ses doigts. Puis ce fut au tour de Yun Tianming. Chung Sin était athée, mais elle débordait en cet instant de l'envie d'arracher la Bible à l'anglais et de prier. Tian Ming, prononce ton discours. Fais vœu d'allégeance à l'espèce humaine. Fais-le. Tu es un homme de responsabilité et d'amour. Comme l'a dit Wade, il y a ici au moins une chose à laquelle tu es attaché. Elle suivit du regard Yun Tian Ming tandis qu'il montait sur l'estrade. Elle le vit tenir le drapeau qui reposait dans les mains de Sei, puis elle serra les paupières d'angoisse. Elle n'entendit pas Yun Tian Ming prêter serment. Ce dernier prit le drapeau bleu des mains de Sei et le posa calmement à côté du perchoir. « Je ne prêterai pas serment. Je me sens étranger à ce monde. Je n'y ai jamais connu ni joie ni bonheur, et je n'ai presque pas reçu d'amour. Bien entendu, j'en suis le premier responsable. » Après avoir prononcé ces mots, il ferma les yeux. Sa respiration était paisible, comme s'il repassait en mémoire toute une vie de solitude. Au pied de l'estrade, Chung Sin, elle, tremblait, comme si elle craignait d'entendre résonner les trompettes du jugement dernier. « Mais je ne prêterai pas serment. Je considère n'avoir aucun devoir envers l'humanité, » annonça résolument Yun Tianming. « Alors pourquoi avoir accepté de mener la mission du programme Escalier ?» demanda Sei. Sa voix était sereine, tout comme le regard qu'elle posait sur lui. « J'aimerais voir un autre monde. Quant à ma fidélité à l'espèce humaine, cela dépendra de ce que je verrai de la civilisation trisolarienne. » Sei hocha la tête et répondit sur un ton indifférent. « Personne ne vous oblige à prêter serment. Vous pouvez descendre. Au suivant, s'il vous plaît. » Chung Sin était secouée de frissons, comme si elle avait été jetée dans une glacière. Elle se mordit la lèvre inférieure et se força pour ne pas éclater en sanglots. Yun Tianming venait de réussir le dernier test. Au premier rang, Wade se retourna pour regarder Chung Sin. Il pouvait maintenant jouir d'une détresse et d'une douleur plus intense encore. Ses yeux disaient « Tu as vu ce dont il est capable ?» Mais s'il disait vrai, si nous le croyons, l'ennemi le croira aussi. Wade se retourna, mais il fit volte-face comme s'il avait oublié de suggérer quelque chose. « C'est un jeu passionnant, n'est-ce pas ?» La suite de la cérémonie sembla toutefois prendre une tournure favorable. La dernière candidate, une Américaine de 43 ans nommée Joyner, ingénieure spatiale de la NASA atteinte du sida, refusa à son tour de prêter serment. Elle indiqua qu'on l'avait presque forcée à venir ici et que si elle avait refusé, elle aurait dû affronter le mépris de son entourage et de son compagnon qui l'aurait laissé mourir seule à l'hôpital. Personne ne pouvait dire si Joyner était sincère ou si elle s'inspirait du refus de Yun Tianming. Mais la nuit suivante, l'état de santé de Joyner empira soudain. Une infection dégénéra en pneumonie et elle décéda au petit matin d'une défaillance respiratoire. Son cerveau ne put être extrait à temps de son corps vivant pour être surgelé, comme l'exigeait l'opération. Morte de manque d'oxygène, son organe aurait de toute façon été inutilisable. Yun Tianming fut choisi pour la mission du programme Escalier. Le moment était enfin arrivé. Chung Sin fut informé que l'état de santé de Yun Tianming s'était détérioré et qu'il fallait procéder à l'ablation de son cerveau. L'opération avait lieu au sein du service neurologique du centre médical de Westchester. Chung Sin se tenait à l'extérieur de l'hôpital. Elle n'osait pas entrer, mais n'avait pas non plus le cœur à partir. Elle n'avait donc d'autre choix que de ruminer sa douleur ici, debout. Wade, qui était venu avec elle, partit seul en direction de l'entrée, avant de se retourner au bout de quelques pas pour se repaître une poignée de secondes de la souffrance de Chung Sin. Puis, sur un ton satisfait, il porta le coup fatal. « Oh, j'y pense. J'ai une autre surprise. C'est lui qui t'a offert l'étoile. » Chung Sin resta pétrifié sur place. En une fraction de seconde, tout se métamorphosa autour d'elle, comme si ce qu'elle avait toujours vu jusqu'alors n'avait été que des ombres ternes, et qu'en cet instant seulement se révélaient les vraies couleurs de l'existence. Submergée par une déferlante d'émotions, elle eut l'impression que la terre se dérobait sous ses pieds. Elle se précipita en courant vers l'hôpital, s'y engouffra par la grande porte et fonça le long du couloir. Elle fut stoppée à l'extérieur du service neurologique par deux agents de sécurité. Elle tenta de les contourner, mais elle fut solidement empoignée. Elle sortit son badge et l'agita de toutes ses forces, puis elle reprit sa course vers la salle d'opération. En la voyant arriver ainsi, les patients et le personnel du centre qui se trouvaient sur sa route, paniqués, s'écartèrent pour lui laisser le passage. Chung Sin ouvrit violemment la porte surmontée d'une lumière rouge de la salle d'opération. Tout était déjà terminé. Des individus en blouse blanche se retournèrent d'un même mouvement. Le corps avait déjà été transféré hors de la salle. Au milieu d'eux trônait une table d'opération, sur laquelle reposait un récipient d'isolation thermique cylindrique en inox, long d'un mètre environ. Il venait juste d'avoir été refermé et la vapeur blanche produite par l'hélium liquide cryogénique ne s'était pas encore dissipée. En raison de la très basse température, cette vapeur paraissait s'accrocher aux parois extérieures du récipient avant de couler lentement, ruisselant depuis la surface de la table en cascades minuscules sur le sol où elle finissait par se désagréger. Baignant dans cette vapeur blanche, le récipient avait l'air d'être un objet venu d'un autre monde. Chung Sin se rua vers la table. Son mouvement éparpilla la nappe de vapeur blanche et elle se sentit l'espace d'un instant enveloppée dans une brume glaciale qui disparut aussitôt. C'est comme si elle avait pu toucher brièvement ce qu'elle était venue chercher ici, mais que cette chose s'était volatilisée de nouveau vers une autre dimension. Prostrée devant le récipient, Chung Sin hoquetait de douleur. Cette vague de tristesse secoua l'ensemble de la salle d'opération. Elle inonda l'hôpital entier, elle engloutit New York, se faisant lac, puis enfin océan, dans les abysses duquel Chung Sin manqua de se noyer. Elle ne sut combien de temps s'était écoulé lorsqu'elle sentit une main sur ses épaules. Peut-être cette main y était-elle posée depuis longtemps, peut-être depuis aussi longtemps que la voix qui s'adressait à elle et dont elle venait juste de détecter l'existence. « Mon enfant, il y a encore un espoir, » dit une voix douce et âgée qui répéta. « Il y a encore un espoir. » Chung Sin était toujours secouée par les spasmes de ses sanglots, mais elle prêta attention à ces mots car ce n'étaient pas les paroles de réconfort auxquelles elle aurait pu s'attendre. Elles exprimaient une idée concrète. « Mon enfant, réfléchissez. S'ils parviennent à ressusciter le cerveau, quelle sera son enveloppe idéale ?» Chung Sin leva ses yeux brouillés de larmes. Ses yeux embrumés reconnurent celui qui lui parlait. Un vieil homme aux cheveux blancs, neurologue réputé de la Harvard Medical School. C'était lui qui avait supervisé l'opération d'ablation du cerveau. « Il n'y aura rien de mieux que le corps auquel appartenait cet organe à l'origine. Chaque cellule cérébrale est porteuse de l'information génétique du corps. Ils auront tout le loisir de reconstituer celui de Yun Tianming, puis d'y transplanter le cerveau. Et ainsi, il redeviendra un être à part entière. » Chung Sin regarda d'un air hébété le récipient en inox. Tandis que ses larmes continuaient à ruisseler sur ses joues, elle songea soudain à quelque chose et prononça cette phrase qui prit tous ceux qui l'entouraient de court. « Et qu'est-ce qu'il va manger ?» Puis elle se précipita hors de la salle en courant, aussi vite que lors de son irruption. Le lendemain, Chung Sin se rendit dans le bureau de Wade, la mine aussi défaite que celle des candidats en phase terminale. Elle déposa une enveloppe devant lui. « Je souhaiterais que ces graines puissent être embarquées à bord de la capsule spatiale. » Wade vida le contenu de l'enveloppe. Une dizaine de petits sachets en plastique. Il les observa avec intérêt. « Blé, maïs, pommes de terre, quelques légumes sans doute et ça, du piment ?» Chung Sin opina du chef. « Je me souviens qu'il aimait manger pimenté. » Wade remit tous les sachets dans l'enveloppe et la rendit à Chung Sin. « Hors de question. Pourquoi ? Ça ne fait que 18 grammes. » Même si l'enveloppe ne faisait que 0,18 grammes, ce serait déjà trop. Nous devons faire en sorte de réduire au maximum le poids total de la capsule. Vous n'avez qu'à imaginer que son cerveau fait 18 grammes de plus. Mais il ne les fait pas. Ajouter du poids signifie réduire à terme la vitesse de la capsule et peut-être retarder de quelques années la rencontre avec la flotte ennemie. Et puis... Wade exhiba à nouveau un sourire froid. C'est un cerveau. Il n'a ni bouche ni estomac. Quel intérêt? N'écoute pas ces contes à dormir debout sur la reconstitution du corps. Ils se contenteront de placer le cerveau dans un incubateur approprié pour le maintenir en vie. Réprimant l'envie de s'emparer du cigare de Wade et de lui écraser sur le visage, Chung Sin récupéra son enveloppe. « Je me passerai de vous. Je demanderai l'autorisation à votre hiérarchie. Je crains que ce soit inutile. Et ensuite ?»« Ensuite, je présenterai ma démission. Pas question. Tu peux encore être utile à la RP. » Ce fut au tour du Chung Sin d'esquisser un sourire froid. « Vous ne pouvez pas m'en empêcher. » Vous n'avez jamais été mon supérieur direct. Je sais, mais tu ne feras rien que je ne permettrai pas. Chung Sin tourna les talons. Le programme escalier a besoin d'envoyer dans le futur une personne connaissant bien Yun Tianming. Chung Sin s'immobilisa. De plus, nous avons besoin que cette personne soit membre de l'ARP. Le job t'intéresse? Ou bien tu veux camper sur ton idée et présenter ta démission? Chung Sin fit encore quelques pas en direction de la porte, mais sa démarche était beaucoup plus lente. Elle s'arrêta. La voix de Wade retentit encore derrière elle. « Tu es bien sûr de ton choix? » « J'accepte d'aller dans le futur, » répondit faiblement Chung Sin, la main appuyée contre l'encadrement de la porte, sans tourner la tête. Ce fut la seule fois où Chung Sin vit l'appareil du programme escalier. Sa voile radiative était déjà déployée en orbite géosynchrone. D'une surface de 25 km², la voile refléta un court instant les rayons du soleil sur l'hémisphère sud. Chung Sin était à Shanghai quand, en plein cœur de la nuit, elle vit une lueur orangée poindre, puis s'assombrir et se dissiper au bout de 5 minutes sur la tenture noire du ciel. Comme un œil cosmique jetant un rapide regard sur la Terre avant de refermer sa paupière. Le processus d'accélération de l'appareil était invisible à l'œil nu. La seule chose qui réconfortait Chung Sin était que les graines avaient finalement été emportées. Ce n'était toutefois pas celle qu'elle avait proposée, mais des échantillons rigoureusement sélectionnés par le bureau de semences spatiales. Cette voile de 9,3 kg possédait 4 haubans, fins comme des fils d'araignée mais longs de 500 km, pour tracter une capsule sphérique d'un diamètre de seulement 45 cm. Sa surface avait été recouverte d'une couche de dispersion thermique. Au moment de son départ, le poids total de la capsule était donc de 850 grammes, mais à la fin de son accélération, il serait passé à 510 grammes. L'étape d'accélération s'étendait de la Terre à l'orbite de Jupiter. Sur le parcours avaient été préalablement disposées 1004 bombes de puissance hétérogène, dont les 2/3 étaient des bombes à fission et le tiers restant à fusion. Elles composaient ensemble un champ de mines spatiales à l'approche desquelles l'appareil du programme escalier pouvait poursuivre son accélération. Par ailleurs, un grand nombre de sondes participaient également à la bonne marche de l'opération. Leur rôle était avant tout de surveiller la trajectoire et la vitesse de l'appareil, en réajustant quand cela était nécessaire la position de la bombe suivante sur le parcours. Comme les palpitations d'un cœur, des détonations nucléaires surgissaient sans trêve et à intervalles réguliers derrière la voile, et cette tempête de radiation propulsait avec force cette plume légère. Lorsque la 997e bombe fut déclenchée à proximité de l'orbite jovienne, les sondes de surveillance indiquèrent que l'appareil avait déjà atteint la vitesse voulue, 1% de la vitesse de la lumière. Mais un incident se produisit. Une analyse du spectre de la lumière réfléchie par la gigantesque voile montra que celle-ci avait commencé à se retrousser. L'hypothèse la plus probable semblait indiquer qu'un hauban avait rompu. Toutefois, la 998e bombe explosa avant qu'on ait pu réajuster sa position et la voile à trois haubans dévia de la trajectoire de navigation prévue. La voile continuait à se retrousser et la surface réfléchissante du réflecteur radar se réduisait rapidement. L'appareil disparut des écrans de contrôle et on perdit ses coordonnées orbitales sans lesquelles l'humanité ne pourrait plus jamais retrouver sa trace. L'erreur avait été infime, mais lourde de conséquences. Avec le temps, l'appareil s'écarterait de plus en plus de sa trajectoire originelle et les espoirs de le voir intercepté par la flotte trisolarienne deviendraient extrêmement minces. Au vu des dernières informations disponibles concernant sa direction approximative, on pouvait estimer qu'il passerait devant une autre étoile dans plus de 6000 ans et qu'il quitterait la Voie lactée dans 5 millions d'années. Mais au moins, le programme Escalier était une demi-réussite car, pour la première fois, l'humanité était parvenue à propulser un vaisseau, même aussi léger qu'une plume, à une vitesse relativiste. Il n'y avait dès lors plus aucune raison véritable d'envoyer Chang Xin dans le futur. Mais le programme Escalier allait continuer à bouleverser sa vie, car l'ARP exigea tout de même qu'elle soit mise en hibernation. Sa mission avait néanmoins changé. Elle deviendrait la médiatrice du programme Escalier dans le futur. Dans l'hypothèse où ce projet pouvait être d'une aide quelconque pour faire progresser la navigation spatiale dans 2 siècles, les données mortes ne suffiraient pas. On aurait besoin d'une personne ayant participé activement à son élaboration. Mais le véritable but de l'ARP reposait peut-être surtout sur la volonté que le programme Escalier ne soit pas oublié ou incompris dans le futur. Durant cette période, d'autres médiateurs impliqués dans divers projets de grande ingénierie furent hibernés pour la même raison. Si l'humanité des siècles à venir devait commenter ses actions, quelqu'un serait là pour rétablir la vérité et balayer les malentendus provoqués par le passage du temps. Tandis que la conscience de Chang Xin s'estompait, en proie à un froid glacial, elle éprouva pourtant la chaleur d'un rayon de réconfort. Comme Yun Tianming, elle dériverait pendant des siècles dans une obscurité sans bornes.